retrouver Michael Ponge pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael.
Bonjour Adrien, merci. 9h10 à Port-au-Prince, il est une heure de moins à Birmingham, dans l'Alabama. Birmingham, plus grande ville de cet état du sud américain, son centre et sa banlieue où se joue peut-être aujourd'hui une page de l'histoire du syndicalisme américain. On vous en dit plus dans un instant. On retournera aussi bien sûr à Port-au-Prince où une deuxième journée de manifestation avait lieu hier contre leur projet de référendum constitutionnel. Le grand changement au Brésil, remaniement ministériel d'ampleur. Et puis à la une du journal de l'Outre-mer, Tessa Gromane, les Antilles qui anticipent un week-end pascal sous confinement.
Oui, Michael, en tout cas avec des mesures exceptionnelles pour lutter contre la pandémie. Il n'y aura pas de procession religieuse et le couvre-feu sera durci.
Rendez-vous dans 15 minutes, Tessa, et bienvenue à tous. David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer. À peu près tous les poncifs possibles ont été utilisés, un peu trop peut-être, mais forcé de le reconnaître. Ce qui se joue en Alabama pourrait bien marquer l'histoire syndicale et sociale des États-Unis. Après le vote, débute ce mardi le dépouillement des bulletins des 5800 employés du site d'Amazon dans la banlieue de Birmingham. Ils ont eu à se prononcer sur la création d'un syndicat. Et si le oui l'emporte, eh bien ce sera tout simplement une première aux États-Unis. Amazon, qui redoute un effet tache d'huile à ses autres entrepôts, a mené campagne pour le non et réfute les accusations de maltraitance lancées par les employés qu'Anne Corpé est allée rencontrer.
Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains, lance une militante armée de son mégaphone. Pendant un mois, les partisans de la création d'un syndicat ont tenté de mobiliser les employés d'Amazon. Ils dénoncent des conditions de travail éprouvantes, voire humiliantes. Linda Burns, employée sur le site de Bessemer.
On est traités comme des animaux. Vous voyez la chaleur qu'il fait dehors ? Il fait aussi chaud à l'intérieur, il y a l'air conditionné, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et aussi, ils ne nous accordent que 5 minutes pour aller et revenir des toilettes, ça n'est pas possible. L'entrepôt fait la taille d'un terrain de football, ça prend 5 minutes pour y aller. Et quand tu reviens, tu as un message des ressources humaines sur ton écran qui t'annonce qu'ils veulent te parler. Ce n'est pas juste. On fait de notre mieux, mais ce n'est pas assez pour eux.
Plusieurs organisations de lutte pour les droits civiques se sont jointes au combat des employés d'Amazon. Eric Hall préside le mouvement Black Lives Matter à Birmingham.
La majorité des employés de l'entrepôt d'Amazon sont noirs, plus de 80% d'entre eux. Ces gens méritent d'être traités avec respect, dignité, comme des êtres humains. Quand le patron d'une société a gagné 80 milliards de dollars pendant une pandémie et que ses employés se battent pour mettre de la nourriture sur leur table et payer leur loyer, c'est un gros problème. Et donc, nous sommes là pour dire au monde que les travailleurs noirs comptent et nous demandons le respect qui nous est dû.
Chris England, président du Parti démocrate en Alabama.
C'est l'Alabama, un état où beaucoup de gens se sont battus contre des forces puissantes et pour gagner le droit d'être traités avec équité. Et c'est le même combat. Les gens doivent être respectés pour les efforts qu'ils font et pour leur travail.
Pour mener campagne contre la création d'un syndicat, le patron d'Amazon a engagé le cabinet de consultants le plus cher du marché, Mike Foster du RWDSU, le syndicat de la grande distribution.
Jeff Bezos essaye d'arrêter les syndicats parce qu'il veut continuer à faire ce qu'il fait en ce moment. Il dépense des millions contre nous au lieu de dépenser ces milliards pour aider les employés de ses entrepôts. Pourquoi il dépense tant d'argent contre nous ? Tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider.
Difficile de s'approcher de l'immense entrepôt de Bessemer. Les vigiles d'Amazon veillent et tout intrus sur le parking est rapidement expulsé. La police vient en renfort. Il faut aller s'installer au feu rouge à la sortie du site pour interpeller les employés. René achève sa vacation. Elle accepte de se confier uniquement si son anonymat est préservé.
Est-ce que c'est beaucoup de travail difficile ? Oui, mais je n'ai pas besoin d'un syndicat. Amazon n'a rien fait contre moi, à part m'offrir une assurance santé. Comment peut-on se plaindre quand on reçoit autant ? Je veux dire, il y a tant de gens qui n'ont pas de boulot. Si on n'est pas satisfait, c'est facile de prendre la porte. Je n'ai pas besoin de syndicat, je peux me défendre toute seule.
Deux jours avant la fin du vote, Bernie Sanders a fait le déplacement jusqu'en Alabama pour soutenir la lutte des employés d'Amazon, dont il a salué le courage, mais le résultat du vote à Bessemer reste très incertain. Anne Corpet à Bessemer en Alabama, RFI.
Résultat qui pourrait être annoncé dès ce mardi, mais il est encore susceptible de recours. L'autre affaire qui fait la une des journaux aux États-Unis ce mardi, c'est évidemment le procès de Derek Chauvin, policier blanc de Minneapolis, impliqué dans la mort de George Floyd l'an dernier. On en parlait ici même hier, avant l'ouverture des premières audiences sur le fond, sur lesquelles on revient avec Éric de Salve, audience et image choc en ouverture.
Sans vidéo, pas d'affaire George Floyd. Les images de son agonie ont donc été diffusées dès l'ouverture du procès de Derek Chauvin. 9 minutes, 29 secondes éprouvantes pour les 14 jurés, 8 blancs, 4 noirs et 2 métis. À 27 reprises, l'afro-américain répète qu'il ne peut plus respirer, écrasé sous le genou de l'ex-policier blanc, impassible. Pour le procureur Jerry Blackwell, ces images sont la preuve que Derek Chauvin est coupable de meurtre.
Monsieur Derek Chauvin a trahi son badge en faisant un usage excessif et déraisonné de la force sur le corps de Monsieur George Floyd.
Pas si simple, répond la défense. Selon Eric Nelson, l'avocat de Derek Chauvin, la cause de la mort de George Floyd serait en fait un usage de drogue et une insuffisance cardiaque.
Derek Chauvin a fait exactement ce pour quoi il a été formé pendant ses 19 années de carrière.
Depuis la Maison-Blanche, Joe Biden dit suivre avec beaucoup d'attention ce procès, dont l'issue, dans un mois environ, pourrait bien secouer à nouveau l'Amérique. Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Et Joe Biden, en attendant, qui affiche son optimisme face au Covid et accélère le rythme. 90% des adultes seront éligibles à la vaccination contre le Covid d'ici 3 semaines, a-t-il annoncé hier, plus vite que prévu, donc, puisque l'objectif avait été fixé pour le mois de mai. Ça avance aussi, la vaccination, à Cuba. Bonjour Arim Leipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
La presse ensemble aujourd'hui, ça avance avec un certain succès.
Oui, exactement. Le pays a commencé à vacciner plus de 100 000 travailleurs de la santé avec Abdala. Abdala, bien, c'est son deuxième candidat vaccin anti-Covid. C'est un test à grande échelle auprès de la population, deux populations à risque, des Cubains âgés de 18 à 80 ans, d'après le journal vénézuélien El Nacional, citant des responsables sanitaires cubains. Et selon le quotidien cubain Juventud Rebelde, la vaccination consiste à administrer 3 doses de ce vaccin made in Cuba, avec comme objectif, Michael, de réduire de 60% le risque d'infection. Parallèlement à ces tests, des essais cliniques de phase 3 sont menés avec ce vaccin, donc Abdala, auprès de 48 millions, 1000 seulement, volontaires. C'est déjà pas mal.
Volontaires, c'est pas mal. Équatoriens, eux, seront privés de plage de vendredi à dimanche. L'Équateur, proportionnellement à sa population, est l'un des pays les plus touchés d'Amérique latine. Il cherche évidemment à endiguer ses contaminations. Bien sûr, le Brésil reste en tête, hein, une crise sanitaire à la gestion présidentielle, on va dire, controversée. Jair Bolsonaro, fragilisé, a procédé hier un important remaniement avec 6 changements de ministres, notamment à des portefeuilles clés comme les affaires étrangères. Le départ de ce dernier était attendu. Il était controversé pour avoir notamment entravé l'importation de vaccins de Chine. En revanche, c'est plus surprenant ce qui concerne le ministre de la Défense, comme le souligne Gaspar Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes.
La nature de ces changements a quelque peu surpris les observateurs du fait de la démission surprise du ministre de la Défense, qui a un poids considérable au Brésil, compte tenu que plus du tiers des ministres du gouvernement de Bolsonaro sont des militaires. Le poids de l'armée est très important dans ce gouvernement. Plus de 6000 officiers prennent place dans des postes de commandement au gouvernement Bolsonaro. Je pense qu'il y a surtout un souhait d'une partie, en tout cas importante, de l'establishment militaire, de préserver l'institution militaire des agissements et des excès de Jair Bolsonaro. Le problème, c'est que l'armée est partie prenante. D'un côté, elle essaie de préserver l'institution des excès de Bolsonaro. Elle souhaite éviter qu'il y ait une immixtion encore plus directe de Bolsonaro au sein de l'institution militaire. Et c'est un peu le sens de la démission, en quelque sorte, du ministre de la Défense. Mais d'autre part, elle participe très directement à ce gouvernement et donc elle se trouve dans une position très inconfortable.
Et forcément, la presse en parle de tout ça, Harry, mais souligne le caractère stratégique de ce remaniement à un an des élections.
Oui, pour le président d'extrême droite, il s'agissait avant tout de s'assurer du soutien du groupe parlementaire informel et centriste, écrit Folha de São Paulo, d'où la nomination de la députée Flavia Arruda au secrétariat du gouvernement chargé de dialoguer avec le Parlement. Cette figure du Centrão est seulement la troisième femme sur 22 ministres.
Un soutien des centristes vital, hein, Harry, pour Jair Bolsonaro.
Oui, car sans ce soutien, effectivement, le président ne peut pas gouverner, explique justement un député centriste au journal Correio Brasiliense. D'après cet élu, c'est aussi la pression du Centrão, donc du socle du bloc centriste, qui a amené Jair Bolsonaro à infléchir sa politique de gestion de la pandémie.
À la une aussi, Harim, des tensions aux frontières sud-américaines. Au Guatemala d'abord, 7 soldats mexicains sont retenus, accusés d'avoir abattu un camionneur guatémaltèque.
Oui, les autorités guatémaltèques ont confirmé la mort du chauffeur routier et aussi le fait que 7 soldats mexicains étaient retenus de l'autre côté de la frontière. Alors, que s'est-il passé exactement? Eh bien, d'après le journal guatémaltèque Prensa Libre, eh bien, on ne le sait pas. Exactement. D'après des témoins, la camionnette guatémaltèque a été attaquée par les militaires mexicains. Le chauffeur aurait brandi une arme à feu et aurait été abattu. Des habitants de la zone frontalière entre les deux pays sont alors arrivés sur place et ont retenu 7 soldats qui ont été ensuite emmenés du côté guatémaltèque. Ils sont actuellement gardés par la police et d'après Prensa Libre, les négociations en vue de leur libération, eh bien, elles sont en cours.
Autre frontière et autre violence, Harim, ça se passe entre le Venezuela et la Colombie.
Oui, depuis 10 jours, des affrontements ont lieu entre des soldats vénézuéliens et des groupes armés, des dissidents de l'ex-guérilla, des FARC, selon les autorités colombiennes. D'après une spécialiste des questions militaires, Sébastien Baraes, qui s'exprime dans le journal El Espectador, les ex-guérilleros cherchent à obtenir le soutien de la population locale. Ce groupe dissident des FARC opère d'ailleurs aussi bien sur les territoires colombiens que vénézuéliens. Des activités autres fois toléré par le gouvernement chaviste, mais qui souhaite à présent y mettre fin. Pour la spécialiste, il s'agit d'une lutte pour le pouvoir dans cette région frontalière et surtout pour le contrôle du trafic en tout genre. Selon un député vénézuélien interviewé par El Tiempo, les guérilleros cherchent à obtenir un accord politique avec le gouvernement de Nicolas Maduro. Une réunion en vue d'un cessez-le-feu pourrait d'ailleurs avoir lieu dans les prochains jours, Michael.
Harim Lipold, merci. La presse du côté d'Haïti, on prend la direction de Port-au-Prince.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et bien sûr, c'est avec, comme chaque mardi, Godson Pierre en ligne avec nous. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef de l'agence Alter Press, ont manifesté hier encore à Port-au-Prince à l'occasion du 34e anniversaire de la Constitution de 87. Et comme dimanche, Godson, les milliers de manifestants ont appelé à rejeter le projet de référendum pour la nouvelle Constitution.
Eh bien, c'était la deuxième journée de protestation, en effet, en faveur du respect de la Constitution de 87, cette loi mère que Jovenel Moïse, dont le mandat présidentiel a pris fin le 7 février, projette de changer. Leaders et militants politiques, religieux et personnalités de la société civile se sont joints à la foule de manifestants réunis sur la place de la Constitution au Champ de Mars, au cœur de la capitale. Ils ont ensuite parcouru plusieurs rues de la capitale en scandant des slogans hostiles au pouvoir en place, qualifiés de dictature. Quelques échauffourées ont éclaté à la fin de la manifestation et la police a dispersé les derniers protestataires à coups de gaz lacrymogène, tandis que les manifestants ont lancé des jets de pierre. Des mouvements ont également eu lieu dans d'autres villes du pays et dans les communautés haïtiennes de l'étranger. Sit-in à Jacmel, dans le sud-est, par exemple, où on a pu, entre autres, lire sur une pancarte « Haïti ne retournera pas en dictature ».
Également à la une d'Alter Press, Godson, la colère des habitants du quartier de Carrefour-Feuille à Port-au-Prince après l'arrestation d'un syndicaliste policier à Belson-Gros-Nègre qui est accusé d'être membre du groupe Fantôme 509.
Les riverains de Carrefour-Feuille sont en effet mobilisés depuis samedi dernier suite à l'arrestation du policier et réclament quotidiennement sa libération. Ils ont érigé hier des barricades de pneus usagés enflammés dans le quartier pour dénoncer cette arrestation jugée arbitraire de Gros Nègre qui faisait l'objet d'un avis de recherche de la police. La plupart des dirigeants du syndicat de la police sont actuellement recherchés et accusés d'appartenir au groupe violent Fantôme 509. Les avocats de Abelson Gros Nègre annoncent une action en habeas corpus contre le caractère arbitraire de cette détention.
Et puis à lire aussi cette distinction, Godson, pour un chercheur haïtien, le docteur Jean-William Pape, entre au conseil scientifique de l'OMS.
Le docteur Pape, directeur et fondateur des centres du groupe d'études haïtiens sur le sarcome de Kaposi et des infections opportunistes gestio, fait partie depuis hier donc du conseil scientifique de l'OMS. Le conseil est composé actuellement de 9 membres, dont 2 prix Nobel, selon les informations communiquées par l'OMS. L'accomplissement scientifique le plus important du docteur Pape est la reconnaissance et la première description complète du sida dans le monde en développement, souligne l'OMS.
Et tout ça est donc à retrouver sur votre site Alter Press. Godson Pierre, rédacteur en chef, avec nous chaque mardi. Merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on en revient au Covid. Tessa Groman pour le journal. En Martinique, la préfecture annonce des mesures de restriction supplémentaires pour le week-end de Pâques.
Oui, un week-end sous cloche. Du Covid en Martinique, un couvre-feu est actuellement appliqué entre 22h et 5h du matin. Il va être étendu, mais ce n'est pas la seule mesure, nous dit Pedro Monerville de Martinique la Première.
Il a donc été décidé en concertation avec les autorités religieuses que les processions et chemins de croix n'auront pas lieu cette année. Pas de pique-nique ni de camping non plus sur les plages, une activité interdite pour éviter tout contact intergénérationnel. Mais la mesure la plus importante reste le couvre-feu pour ce week-end pascal ramené à 19h, soit 3 heures avant, et cela dès le jeudi 1er avril. Toutefois, la préfecture annonce que nous ne sommes pas à l'abri d'un prolongement de ce couvre-feu après le week-end de Pâques. Pas à l'abri non plus d'un éventuel confinement si le président de la République décide de faire des annonces nationales. Cela est prévu mercredi.
Et mesures identiques en Guadeloupe où les chiffres de la pandémie sont également en hausse. 10 ans après le scandale du Mediator, le laboratoire Servier a été reconnu lundi coupable de tromperie aggravée pour avoir commercialisé ce dangereux médicament. Principalement utilisé pour maigrir, le Mediator provoque de graves pathologies cardiaques qui peuvent entraîner la mort. Geneviève Martiniquaise fait partie des victimes.
C'est une victoire et que c'est vraiment un soulagement parce qu'on ne peut pas empoisonner les gens sciemment. J'étais toujours en quête de perte de poids. Donc, on me l'avait prescrit. J'ai eu à jeter, à un moment donné, quand j'ai su que c'était un poison, au moins 15 boîtes de Mediator.
Témoignage recueilli par Audrey Gauvindin, Martinique la Première. Des crues exceptionnelles sur la vallée du Maroni, des submersions marines à Kourou, des quartiers sous l'eau à Cayenne. Les risques liés aux inondations sont nombreux en Guyane. Un plan de gestion de ces risques pour la période 2022-2027 est actuellement à l'étude, Jessie Xavier.
Près d'une personne sur 5 en Guyane est directement impactée par ces potentielles inondations. Le plan de gestion des risques d'inondation se donne pour objectif d'améliorer l'aménagement du territoire, mais aussi la connaissance du risque. Il veut également promouvoir la culture du risque auprès de la population et favoriser une gouvernance intraterritoire sur cette question. Autre recommandation notable, la participation jugée insuffisante du public dans la phase d'élaboration du plan. À défaut, une mise en ligne du document sur Internet est demandée.
Retour en Martinique où les habitants s'apprêtent, comme chaque année, à manger des acras pour le Vendredi Saint. Problème, la crise sanitaire, comme on l'a vu, s'invite à la fête et ce ne sera pas toujours facile d'acheter les produits. Réaction recueillie sur le marché de Fort-de-France.
Ah ben, je pense que tout le monde devra s'organiser, festoyer, fêter, prier chez soi.
La pandémie, ça ne va rien changer. On reste sur place, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, hein. Ça change. Hein. On fait chez nous des potagers, des trucs comme ça aussi, on a des trucs chez nous. Donc on va suivre la tradition, mais bon, mais sans sortir, on reste sur place.
Voilà, Michael, ça s'appelle peut-être le système D, par exemple.
Par exemple. Merci beaucoup, Tessa Groman, pour ces informations. Merci à vous, à la Première, qu'on retrouve chaque jour à la fin de notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Merci à elle. Une petite précision pour vous, nos auditeurs qui nous écoutez en Haïti. Vous l'avez remarqué, malgré le changement d'heure, votre rendez-vous reste à 9h10, heure de Port-au-Prince, donc pour vous, compte tenu des aménagements de notre grille en raison de la pandémie de Covid. Rendez-vous donc dès demain 9h10 Port-au-Prince, partout ailleurs c'est 13h10 temps universel, et bien sûr le rendez-vous d'Haïti et des Amériques est à retrouver sur rfi.fr et sur Twitter @RFIAmérique.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. Autour de la question.
Caroline Lachowski.